Nekeluka. La grande édition de la mi-journée, c'est avec Christora Jordan Badengbe. Jordan, bonjour.
Bonjour Marcel Mbakula, bonjour à tous. Les titres de cette édition. Manifestation ce matin à Bangui des associations proches du gouvernement. Elles dénoncent l'ingérence de l'Occident dans les affaires internes de la RCA et les menaces contre les autorités du pays. Face au problème d'accès à l'éducation à Samoanja dans la Haute-Côte, la MINUSCA promet appuyer le gouvernement à y remédier. On y revient. Au sommaire également, fin hier à Libreville au Gabon du Forum mondial sur le climat, plusieurs recommandations ont été formulées pour protéger des forêts. Football poursuit des matchs retour du championnat de la Ligue de Bangui en première division. À 15h, SCAF joue contre SICA Sport.
À la une de cette édition, manifestation ce matin à Bangui des organisations proches du gouvernement. Elle dénonce l'ingérence de l'Occident, notamment des États-Unis d'Amérique, dans les affaires internes de la République centrafricaine.
Alors que les autorités de Bangui ont démenti l'existence d'un mémorandum des États-Unis exigeant le départ des paramilitaires russes de Wagner du pays, des organisations proches du pouvoir ont manifesté ce matin pour dénoncer ce qu'elles qualifient de chantage et de harcèlement venant de l'Occident. Martial Steve Betisingaï a préparé reportage.
Plusieurs points ont fait l'objet de cette manifestation. Sur les pancartes, l'on peut lire « Le peuple veut une coopération fondée sur le respect et l'égalité conformément aux droits de l'homme ». Cela fait suite au supposé mémorandum des États-Unis demandant le départ des paramilitaires russes de Wagner du pays. Aussi, les participants, eux, demandent la libération des 20 éléments FACA retenus en otage depuis le 14 février à Sikikidi dans la Vakaga. Blaise Didacien Kosimachi, leader de la galaxie nationale.
La déclaration de guerre faite par l'administration Biden au président Ouadéa. Je parle d'une injonction, je parle de l'ingérence dans une affaire de notre pays. Comment un président centrafricain, et vous savez bien que notre pays est souverain, c'est pas un Joe Biden qui peut imposer à Ouadéa de faire libérer les Russes. Non. Nous avons signé un accord militaire avec la Russie, c'était en 2018.
Thibault parle d'une affaire géostratégique et refuse que son pays puisse être le théâtre d'affrontements entre les puissances.
C'est un plan machiavélique de l'Occident. C'est vraiment une honte pour notre génération actuelle, parce qu'à l'ère du XXIe siècle, aucun État au monde peut imposer sa volonté à un autre État.
Présente à cette manifestation, Isabelle exige des autorités la libération immédiate des 20 éléments FACA qui sont toujours faits prisonniers par la rébellion de la CPC.
Des hommes armés retiennent en otage nos FACA et brandissent des menaces. Nous ne voulons plus cela. S'ils veulent coopérer, c'est mieux de procéder à des négociations, mais pas à travers des menaces et les prises d'otages.
La Galaxie Nationale, mouvement qui organise cette manifestation, entend lancer un sitting dans les prochains jours au PK0 au centre-ville de Bangui. On rappelle, la présidence de la République a rejeté l'existence d'un mémorandum venant des États-Unis. Mais en attendant, le débat sur cette affaire se poursuit dans les médias nationaux et internationaux.
Martial Steve Mbitisinga sur Radio Nekeluka.
Éducation dans ce journal, les écoles de la Haute-Côte manquent d'infrastructures et d'enseignants qualifiés.
Un problème réel qui inquiète l'inspection d'académie de la Haute-Côte qui appelle les partenaires à l'aide. Demande entendue par la MINUSCA qui compte apporter son soutien au gouvernement afin d'améliorer les conditions d'études dans cette partie de la RCA. Le point avec François Kosimé-Palato.
C'est une plainte, mais aussi un plaidoyer formulé par les autorités académiques de la Haute-Côte. Au-delà du manque des tables bancs, il y a aussi l'absence des bâtiments scolaires et d'enseignants qualifiés. Fidèle Balenji, inspecteur d'académie de la Haute-Côte.
L'académie de la Haute-Côte est une nouvelle académie qui vient d'être créée, qui a de sérieux problèmes. Pour toute la Haute-Côte, les enseignants se résument à 8 du fondamental 1. Nous étions obligés de proposer 2 à des postes de responsabilité. Donc, il ne reste que 6 enseignants. De plus, le problème grandissant est la capacité d'accueil. Il n'y a pratiquement pas d'infrastructure adéquate pour pouvoir abriter ces enfants. Il n'y a pratiquement pas de table banc. Les élèves sont assis dans la majeure partie des cas à même le sol.
La chef de la MINUSCA en mission la semaine dernière à Samoanja a annoncé que son institution va appuyer les écoles de cette localité. Valentine Rogwabiza.
Au courant de notre présence, nous avons eu l'opportunité de procéder au lancement de 2 écoles. Ce qu'il y a aussi de particulier à signaler, ces 2 écoles de niveau primaire ont été construites par les anciens combattants de Samoanja démobilisés. Nous continuons à travailler avec le gouvernement. Il est essentiel de pouvoir mettre en place les structures administratives qui vont permettre à des enseignants qualifiés d'accepter d'être déployés à Samoanja. La MINUSCA est disposée, comme cela a été fait ailleurs, au déploiement des fonctionnaires de l'État, mais aussi à mettre en place des structures qui leur permettraient de pouvoir vivre.
Les différents conflits armés que la République centrafricaine a connus ont paralysé l'éducation dans la localité de Samoanja en particulier et de la Haute-Coteau en général.
Restons toujours dans la Haute-Coteau pour parler cette fois-ci de la plainte des habitants de Samoanja sur la hausse des prix des produits alimentaires sur les marchés.
Oui Marcel, des produits de première nécessité sont devenus rares et les prix ont aussi galopé. Les consommateurs de Samoanja sont plaints et demandent l'intervention du gouvernement. Des précisions avec Gasmala Mustapha qui était dans la localité.
Selon des témoignages recueillis auprès des habitants de Samoanja, les prix du savon, huile végétale, sel et même de farine de blé ont doublement augmenté sur les marchés. Pour certains commerçants, cette inflation est due à la dégradation du pont de Kumu situé à 55 km de Samoanja sur l'axe Bria et la fermeture de la frontière centrafricano-soudanaise. Nadre Beden, délégué des commerçants du marché de Samoanja.
Un morceau de savon, le grand modèle, est passé de 500 à 1000 francs. Un litre d'huile végétale varie de 2500 à 3000 francs. Un sac de sel coûte 19 000, or dans le passé, c'était à 10 000 francs. Actuellement, notre frontière avec le Soudan est fermée, donc on ne peut pas importer des marchandises.
Halime Ibrahim Misir, une habitante de Samoanja qui déplore l'insécurité sur certains axes routiers, plaide pour la réparation du pont de Kumu.
Des commerçants prennent leur courage pour nous ravitailler. Malheureusement, ils font face à des braqueurs. Parfois, ils sont tués ou bien les braqueurs emportent leur moto. Auparavant, grâce au pont de Kumu, on pouvait avoir des marchandises en provenance de Bria, Ouadadjalé et de Bambari. Nous prions le gouvernement de nous réhabiliter ce pont afin de nous soulager.
La montée des prix des produits de première nécessité a impacté sur les activités des commerçants. Francisca Radiomo se plaint.
Regardez, sur ma table, je ne vends pas de sel, ni d'oignons, moins encore d'huile végétale. Un pot de sel se vend à 1500 francs, le même prix pour un demi-litre d'huile végétale. Avant, on importait les marchandises du Soudan. Et c'était les ânes qui facilitaient le transport, mais à présent, avec les motos, les commerçants ne peuvent pas acheter de grandes quantités de marchandises.
En plus des produits de première nécessité, les prix du carburant et des matériaux de construction sont aussi en hausse à Samoanja. Pour illustration, un sac de ciment coûte en ce moment 31 000 francs et un litre d'essence se vend à 3 000 francs CFA. Gasmara Mustapha, de retour de Samoanja, Radio Ndekeluka.
À Bossangwa dans l'Ouam, les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs se plaignent de leurs conditions de travail.
Ces derniers temps, il leur est difficile d'exercer convenablement leurs activités quotidiennes. Le manque d'équipement adéquat et l'insécurité persistante sont les maux qui les minent. Le point avec notre correspondant Raphaël Nganaré.
Longtemps considéré comme le grenier de la République centrafricaine, la préfecture de l'Ouam a du mal à se remettre. Avec la crise sécuritaire de 2013, les agriculteurs de cette région ont perdu leur petit matériel agricole qui faisait la force de leur production. Aujourd'hui, Muriel Bouffey est une cultivatrice à Bossangwa. Elle déplore leurs conditions de travail.
Nous cultivons avec la houe, ce qui fait qu'on ne récolte pas assez. Les champs ne sont pas tellement grands, même pour trouver les bonnes semences, c'est difficile. Nous avons perdu tous nos matériels de culture, comme les charrues.
Même son de cloche du côté des pêcheurs. Pour eux, l'exploitation des mines d'or sur les affluents de l'Ouam par une société chinoise ne leur permet pas de mener à bien leurs activités. Francis Dénéraïsé, président de la coopérative des pêcheurs de l'Ouam, s'insurge contre la loi de l'Ouada, demandant aux associations de se mettre en coopérative.
Nous avons quitté le groupement pour venir maintenant dans la coopérative, mais c'est comme un gâteau empoisonné. Nous ne pouvons pas faire la pêche comme auparavant, parce que notre Ouam, c'est déjà pollué, même pour trouver les matériels aussi, c'est difficile. Nous lançons les cris de cœur au gouvernement de chercher à remédier aux difficultés que nous rencontrons sur le terrain.
Par ailleurs, à Bouka, une centaine de kilomètres à l'est de Boussangoua, les éleveurs éprouvent des difficultés à vaquer à leurs occupations. Saïdou Dada, un de leurs, pointe du doigt l'insécurité grandissante dans la région.
Nous savons seulement élever des bœufs et nos femmes extraient le lait de vache pour donner aux enfants. Elles vendent une partie pour avoir de l'argent afin de s'occuper des enfants. Malheureusement, certaines personnes volent ces bêtes et l'éleveur n'a plus rien. Que va-t-il faire du moment où il n'a pas d'autre activité que celle-là? L'État doit veiller sur les éleveurs en leur apportant aussi de l'aide.
Face à cette situation, des voix s'élèvent pour demander au gouvernement d'ouvrir l'œil sur la relance de l'agriculture et de l'élevage dans cette région en proie à l'insécurité depuis 2013. Raphaël Nganaré, Boussangoua, Radio Ndekeluka.
La République centrafricaine dispose désormais d'un nouveau centre de prise en charge des personnes vivant avec un handicap.
Situé au Picadis, en face de l'école de police, ce nouveau centre est chargé de fabriquer sur place les prothèses et de prendre en charge des personnes handicapées et autres catégories de personnes physiques. La signature du protocole de partenariat avec le ministère de la Santé a été faite mercredi à Bangui. Yves Van Loo, chef adjoint de délégation du CICR, avec Maxime Joël Lalaye.
Ce centre est le fruit de travaux de plus de 3 ans en termes de conception et en termes de réalisation technique. Une fois mis en service, ce centre sera le centre de référence dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle en République centrafricaine. Il a pour objet d'accueillir et de servir les personnes handicapées physiques. L'objectif est double, améliorer l'accès à des services de réadaptation physique de qualité pour les victimes du conflit, ainsi que pour les autres catégories de personnes handicapées physiques, et assurer la pérennité des services de réadaptation physique à long terme. À cette fin, le centre permettra la production de prothèses, d'orthèses et d'aide à la mobilité soutenue par un service de kinésithérapie et un service social pour permettre l'inclusion des bénéficiaires dans la société centrafricaine.
Radio Nikiluka, actualité internationale, le One Forest Summit a pris fin hier à Libreville au Gabon.
Oui, Marcel, à la clôture de ce sommet de 2 jours consacré aux questions de préservation et la gestion durable des forêts, les participants estimaient qu'il est urgent de passer à l'action et de concrétiser des engagements pris pour protéger des forêts. Cela va permettre aux pays forestiers de se développer sur le plan économique. Rodrigue Leroy-Binga est notre envoyé spécial à Libreville.
Il n'y a pas besoin d'engagement de Libreville, c'est ce qu'a déclaré hier à la clôture du One Forest Summit le président français Emmanuel Macron, qui a co-présidé ce sommet avec le président gabonais Ali Bongo. Si on veut éviter la catastrophe climatique, poursuit le président français, on voit l'urgence de passer à l'action, protéger nos forêts et mettre un terme à la déforestation. Il rappelle que des engagements ont été pris au sommet de Montréal et de Glasgow, des accords qui prévoient l'arrêt de la déforestation et la protection de 30% de la nature d'ici 2030. Si les pays forestiers doivent conserver leurs forêts pour capter le carbone et favoriser l'équilibre climatique mondial, ils doivent être payés pour ce service qu'ils rendent à l'humanité. Le One Forest Summit est revenu sur la question. 100 millions d'euros, soit plus de 65 milliards de francs CFA, sont mis en jeu pour ce défi. Certains pays se plaignent souvent d'une répartition inéquitable des fonds. Alors, pour bien calibrer les rémunérations, un projet scientifique intitulé One Forest Vision est mis en place. Dans 5 ans, cette initiative doit mesurer la balance nette de séquestration du carbone et cartographier à l'arbre près les résultats les plus vitaux de carbone et de biodiversité dans les forêts d'Amazonie, d'Afrique et d'Asie. Cela permettrait aussi de faire un inventaire des espèces végétales et animales contenues surtout dans le bassin du Congo, jusque-là très peu étudiées. Pour les experts, on ne peut que bien gérer et protéger ces espèces si on les connaît. À côté de ces projets scientifiques, il y a aussi une stratégie économique appelée 10 by 30 ou encore 10 par 30. Cela vise à créer 10 millions d'emplois d'ici 2030 dans les activités liées à l'exploitation durable des forêts tropicales et une série de premiers engagements concrets d'une 50aine d'entreprises. Cela répond aux recommandations des centaines de jeunes qui ont pris part à ce rendez-vous. Tout ceci permettrait aux pays forestiers de concilier protection de l'environnement et développement économique. Le mot d'ordre du One Forest Summit, c'est de passer à l'action et c'est ce qu'on attend de voir. Rodrigue Leroy-Binga, Libreville, Radio Ndekeluka.
La page sport de cette mi-journée avec vous. Bienvenue Bello, bienvenue, bonjour.
Bonjour Chris Roy, Jordan Badengbe, bonjour à tous.
Football, les matchs du championnat retour de la Ligue de Bongui en première division se poursuivent aujourd'hui au stade Barthélemy Boganda.
Cet après-midi, à partir de 15h, le stade centrafricain SCAF affronte Sika Sport. Hier, Racing Club du 3e arrondissement s'est incliné devant AS Tempête Mokaf 2-0. Retour sur le match d'ouverture de ce championnat retour avec Claire Assambadenga.
Il est 15h15. Le stade Barthélémy Bogonda vibre au rythme de la première rencontre du championnat retour de la Ligue de Bangui. Les bleus blancs de RC3 et les rouges noirs de Tempête Mokaf s'affrontent en présence des supporters venus de toute la capitale. À la première partie, le système de jeu du RC3 est presque inexistant sur le terrain, pas assez de cohésion entre les joueurs. Côté AS Tempête Mokaf, plusieurs occasions de but manquées, mais à la reprise, avec une bonne circulation de balles, les rouges noirs ont inscrit leur premier but à la 55e minute. Une réalisation signée Loïc Tonner Kaya Dichourlé. Ce n'est pas fini. À la 82e minute, Isaac Ngoma augmente le score en marquant le deuxième but. Ici au Gandin, c'est une liesse populaire des supporters des rouges noirs. Benjamin Mongo, entraîneur de Tempête Mokaf, dédie la première victoire de son équipe aux joueurs et aux supporters.
C'était un match très dur, le premier baptême. C'est une victoire que je dédie à la Tempête, à tous les supporters et également à mes valeureux joueurs qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Et sans oublier le staff technique qui travaille avec moi tous les jours.
Cette défaite permet au Racing Club du 3e arrondissement de revoir son système de jeu face à ses prochains adversaires. Kevin Bongwe, entraîneur.
Il nous a battu la fois passée du 8-1. Dommage. Et on s'est bien préparé, mais comme Tempête, c'est une grande équipe. À la dernière minute, les enfants ont tout perdu, donc voilà ça. On va se préparer parce qu'on n'a pas encore terminé le championnat, donc nous sommes en 8e place. Donc on fait un effort de garder d'abord notre place. Et bon, quoi, on va sûrement chercher le maintien.
Classé en 5e place avec 19 points en championnat aller, AS Tempête Mokaf jouera son deuxième match retour contre Sika Sport. Et RC3 va affronter Red Star la semaine prochaine.
Du foot à l'international, les quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans ont aussi démarré hier en Égypte.
Cet après-midi à 15h, la Gambie affronte le Soudan du Sud, suivi à 18h du duel Congo-Brazzaville-Tunisie.
C'est la fin de cette édition sur Radio Ndekeluka. Merci à vous de l'avoir écouté.